Bonjour à tous, bienvenue à l'appel trimestriel de la CAN. Je suis Brad White, je suis directeur des communications pour la CAN en Amérique du Nord. L'appel d'aujourd'hui va durer environ une heure. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons avoir une présentation du président pendant 10 minutes, ensuite un point du conseil d'administration pendant 5 minutes. Il y aura 10 minutes de réservé pour le point sur les politiques. Et ensuite, nous passerons au point sur le management pendant environ 15 minutes. Et enfin, un point sur les questions financières pendant 10 minutes environ. Une fois que les présentations seront terminées, il y aura une opportunité pour les participants de poser leurs questions aux intervenants. Si vous êtes sur Adobe Connect, veuillez taper votre question dans la case étiquetée « Submit questions here ». Si vous êtes au téléphone, appuyez sur dièse 3 et l'opérateur vous mettra dans la file. J'aimerais vous dire pour l'instant que cet appel se produit en anglais, mais il est interprété simultanément dans 6 langues, en espagnol, en français, en chinois, en russe, en arabe et en portugais. Donc, si vous êtes sur une de ces lignes, même chose, vous appuyez sur dièse 3 et vous pouvez ensuite poser votre question. Nous entendrons ensuite l'interprétation. Si nous n'avons pas suffisamment de temps ou si vous avez des questions supplémentaires après la séance, vous pouvez les envoyer par email à engagement@icann.org. Donc encore une fois, engagement en anglais @icann.org. Cette session est enregistrée. Les liens vers les documents de la présentation seront affichés sur le site d'ICANN et vous pouvez également les trouver dans le lien dans Adobe Connect. Enfin, j'aimerais vous demander d'éteindre le micro de votre ordinateur et de vos téléphones. Et ceci étant, je vous présente le président et PDG d'ICANN, Yoran Marbi. Yoran, c'est à vous. Bonjour. La communauté de l'ICANN est très affairée par la préparation de la transition du rôle de supervision des fonctions IANA et les nécessaires changements et ajustements culturels que cela entraîne. De ce fait, en particulier en ce qui concerne les modifications des statuts de l'ICANN, il est nécessaire de clarifier la relation entre le Conseil, l'organisation de la CAN et la communauté. Je voulais vous faire part de ceci, de mon avis là-dessus, pour avoir votre point de vue, et puis également pour pouvoir en parler avec le grand public. Comme je le dis à Enzinki, ceci est une révolution, mais pas une évolution. Nous allons voir comment faire évoluer notre façon de travailler en harmonie avec les nouveaux statuts. Alors, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de l'ICANN comme d'un écosystème qui est composé de trois grands groupes, la communauté de l'ICANN, l'organisation de l'ICANN, donc le personnel qui soutient la communauté, et le conseil d'administration de l'ICANN. La communauté détermine les politiques et les priorités, le conseil d'administration revoit ses politiques et priorités et demande au personnel de les mettre en œuvre. La communauté de l'ICANN est composée d'un groupe international de parties prenantes, de bénévoles. Et donc, nous avons dans ces groupes des dirigeants d'entreprise, des ingénieurs en informatique, des experts techniques, des académiciens, la société civile, le gouvernement et les utilisateurs finaux, ainsi que d'autres. Donc, le rôle de la communauté est de déterminer ses politiques, ses priorités et ses mesures à prendre. Le conseil de l'ICANN est composé de membres de la communauté qui ont été élus pour être à leur service dans deux domaines très importants. Premièrement, le bon accomplissement des objectifs pour garantir que l'entité juridique honore ses engagements. En conformité avec les statuts, le Conseil a également le rôle de décideur et de validation. L'organisation de l'ICANN met en œuvre les objectifs de la communauté sur la base des consignes qui ont été mises en place par le Conseil. En tant que PDG, j'ai le rôle de m'assurer que l'organisation de l'ICANN agit conformément aux consignes de la communauté dans le cadre de la mission de l'ICANN. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'entre autres, nous organisons ces appels trimestriels. C'est un des moyens que vous avez de rester informé sur ce que fait l'organisation pour mettre en œuvre les politiques élaborées par la communauté et donc pour contribuer à la responsabilité et à la redevabilité de l'organisation. Il existe divers mécanismes de notification, y compris le tableau de bord des indicateurs clés de performance et d'autres moyens. Nous allons également améliorer ces appels, les appels trimestriels, à partir du trimestre prochain, et je suis prêt à entendre vos commentaires là-dessus. Donc, le petit changement que nous avons aujourd'hui, c'est donc l'incorporation du président du Conseil qui va nous parler. Alors, voyons un petit peu ce qui s'est passé au sein de l'organisation Au cours du quatrième trimestre, au sein de l'organisation, nous avons beaucoup travaillé à la mise en œuvre des propositions de la communauté relatives à la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Une étape significative a été atteinte le 12 août lorsque l'ICANN a envoyé un rapport sur l'état d'avancement à la NTIA, signifiant que toutes les tâches nécessaires spécifiées dans la lettre du 9 juin de la NTIA avaient été effectuées et que toutes les autres tâches visant à faciliter la transition étaient soit à l'étape de révision finale, soit en attente d'approbation. La lettre adressée à l'ICANN en date du mardi 16 août a indiqué avoir passé en revue le rapport d'état d'avancement dans le détail et selon cette analyse, nonobstant tout obstacle majeur, l'intention de la NTIA est de permettre au contrat IANA pour les fonctions de prendre fin à la fin à partir du 1er octobre. Alors, je crois que ce qui est important, c'est donc le nouveau forum de politique d'Helsinki, ce nouveau format qui a été organisé pour la première fois et qui a été choisi par la communauté. Plus de 14 000 bénévoles sont venus discuter des questions les plus récentes en matière de politique. Et les commentaires que j'ai eus de la communauté se sont avérés positifs. Lors de ma première journée en tant que PDG officiellement, j'étais à Copenhague avec lors de la réunion e-Star, où j'ai rencontré de nombreux membres de la communauté technique. Ceci fait un excellent début. J'ai également participé à Cancun à la réunion de l'OCDE. Je me suis également rendue à Euroding, à Bruxelles, et je me suis également rendue à Washington pour parler de la transition IANA. Ceci étant, je vais maintenant passer la parole à Steve Crocker qui va nous faire un petit point sur ce qu'a fait le conseil d'administration au cours du dernier trimestre. Merci beaucoup. Steve au micro. Merci beaucoup, Yoram. C'est un plaisir de pouvoir participer à ces appels. Le conseil d'administration, d'une manière générale, reste un petit peu caché, pour ainsi dire, en ce qui concerne tout notre travail, pour augmenter... Et donc, nous devons augmenter la visibilité de ce que nous faisons. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons faire à l'avenir. Nous avons eu, en fait, trois retraites. Nous en organisons, pardon, trois par an, en général lors des réunions de l'ICANN, pour en fait nous préparer à ces réunions, donc juste avant, et nous nous focalisons beaucoup sur les questions de stratégie, sur les questions de planification, des étapes à venir. En fait, notre dernière retraite a eu lieu à Amsterdam, et c'est là qu'avait eu lieu la réunion de la division GDD, donc nous avons pu entrer en lien directement avec les participants à cette réunion, à cette occasion. Donc je crois que cela a été très positif. Lors de la réunion d'Helsinki, comme Yoram l'a mentionné, nous avons donc utilisé ce nouveau format de réunion et nous nous sommes concentrés sur la question des politiques. Le conseil d'administration a beaucoup participé aux réunions des autres groupes et je crois que ceci a été très positif. Cela nous a permis de beaucoup apprendre et a été très utile pour le conseil. J'ai mentionné que nous passions à un processus d'accroissement de la visibilité. Je crois qu'il est important pour la communauté de comprendre en davantage de détail ce que fait le conseil, comment il travaille. Donc, nous sommes en train de mettre en place des processus pour la publication des séances, des discussions au conseil d'administration. Donc, nous allons accroître la transparence par rapport aux prises de décision du conseil. Ceci, bien sûr, s'ajoute au raisonnement typique comme quoi tout est toujours disponible. Nous allons davantage vous en faire savoir au cours des quelques mois à venir, lorsque la mise en œuvre se fera. En ce qui concerne l'interaction par rapport au budget, et en ce qui concerne le budget d'une manière générale et le budget pour les groupes intercommunautaires sur la responsabilité, vous savez qu'il y a eu des dépenses extraordinaires par rapport à tout ceci, par rapport à la transition. Et donc, ceci représente une réelle préoccupation pour le Conseil. Nous sommes en cours de communication avec la communauté là-dessus, sur le budget général, et avec les coprésidents du CCWG pour la poursuite de leurs travaux. Dans le cadre du travail général de ce qui est la prérogative du Conseil, nous avons approuvé la révision de la GNSO, et donc nous sommes dans l'attente de voir mise en œuvre ces recommandations. Bien sûr, ceci va solidifier la GNSO et la CAN. Nous avons approuvé des amendements à la charte du groupe des représentants des opérateurs de registre. Et enfin, nous avons mis en place un groupe de travail interne pour améliorer le dialogue à l'interne. Et j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous savez de quoi je parle en termes de gouvernance de l'Internet. Nous avons mis en place un groupe de travail interne également qui surveillera le niveau de confiance ou de manque de confiance et de tout ce qui sous-tend ces perceptions. Je crois qu'au conseil d'administration, tous nous avons des préoccupations communes relatives à l'harmonisation de l'organisation de la CAN et de ce que fait le conseil d'administration en termes de perception et de sensibilité de la communauté. Donc voilà pour ce qui est de mon rapport sur les activités de la CAN et j'aimerais maintenant repasser la parole au personnel. Merci, Dr. Crocker. Nous allons maintenant passer au point sur les politiques avec Brad, qui est directeur pour le soutien au développement pour la CCNSO. Bart, c'est à vous. Merci, Brad. Et bienvenue à tous. Donc, comme l'a dit Brad, je suis directeur pour le développement de politique, pour le soutien au développement de politique au sein de l'ICANN. Et en fait, je vous parle ici au nom de David Olive, qui est président de ce département, vice-président, pardon. Il n'a pas pu être présent lors de cet appel. Je vais maintenant vous faire un petit point sur certains des développements de politique, toutes les activités relatives à cela. Et je serai ensuite relayée par Adiel, qui vous parlera du reste des activités. Comme vous le savez, le travail relatif aux fonctions de coordination technique sont en fait définis par trois organisations de soutien et par des comités consultatifs. Donc nous avons un modèle ouvert, transparent, multipartite qui permet ce travail. D'autres organismes de politique ou de technologie de l'Internet sont également impliqués dans le développement de politique. C'est le cas du groupe de travail de génie Internet et des registres Internet régionaux. Donc, pendant ce point sur les politiques d'aujourd'hui, je vais parler de l'organisation de soutien aux extensions génériques, de l'organisation de soutien aux extensions géographiques et toutes les politiques dans ces domaines. Je vais parler de l'organisation de ressources de numéros, de l'organisation de soutien à l'adressage et également du groupe de travail de génie Internet qui sera mentionné par Adiel. Alors, nous passons à la diapositive suivante. Nous voyons donc que l'organisation de soutien au nom générique et donc ses grandes lignes de travail poursuit toujours son travail. Suite à la proposition définitive sur la transition des fonctions IANA. Et suite au travail du groupe de travail intercommunautaire sur les fonctions de nommage. Par ailleurs, le groupe de travail intercommunautaire de l'ICANN sur la responsabilité et la redevabilité a été mis en place donc officiellement juste avant Helsinki. Lors du quatrième trimestre, le conseil de la GNSO a adopté la mise à jour du rapport final sur les améliorations du PDP de la GNSO et c'est un projet qui a mis en place un certain nombre d'améliorations au processus de développement de politique de la GNSO. Le conseil de la GNSO a prolongé la durée du mandat de la liaison actuelle de la GNSO au GAC jusqu'à l'ICANN 55 et a confirmé la prolongation de la durée du processus de sélection pour la prochaine liaison de la GNSO au GAC. Par ailleurs, le conseil de la GNSO a adopté l'analyse des priorités et de la faisabilité du groupe de travail sur la révision de la GNSO sur la base des recommandations de révision de la GNSO et a adopté la révision de la GNSO du communiqué de Marrakech du GAC, qui sera donc proposé au conseil d'administration. Donc nous avons actuellement à la GNSO 11 processus de développement de politique à différents niveaux d'avancement. Nous avons donc à la phase de travail, le groupe de travail sur le PDP consacré aux procédures pour des séries ultérieures de nouveaux GTLD. Nous avons la révision de tous les mécanismes de protection des droits dans tous les domaines génériques de premier niveau. Nous avons le service d'annuaire de données GTLD de nouvelle génération destiné à remplacer le WIS et l'utilisation de mécanismes de droit curatif pour protéger les noms des OIG et des OING. Lors du dernier trimestre, nous avons également vu la création d'une équipe de rédaction chargée de poursuivre l'élaboration de recommandations pour la mise en œuvre des nouveaux rôles et obligations de la GNSO pour mettre en œuvre les rôles et obligations de la GNSO dans le cadre des statuts de l'ICANN post-transition. La GNSO a également formé un comité de sélection pour le comité permanent de clients pour aider le conseil de la GNSO à la sélection de la liaison de la GNSO au CSC, ainsi que pour la confirmation de la liste des membres du CSC. Ensuite, donc, on peut donc s'attendre à ce que le processus de transition du rôle de supervision des fictions IANA se poursuivre au cours du quatrième trimestre. Donc, nous nous concentrons sur la mise en œuvre, la partie mise en œuvre des propositions. Par exemple, le conseil de la CCNSO a présenté les résultats d'un questionnaire sur la redevabilité, sur sa redevabilité vis-à-vis la communauté CCTLD. Pour la mise en œuvre de la proposition du CWG supervision et de celle du CCWG sur la redevabilité, le conseil de la CCNSO a demandé à son comité de révision des directives existantes de mettre au point des processus et procédures correspondant en fait aux exigences spécifiques imposées au CCNSO du fait des modifications apportées au statut. Donc, par exemple, l'ajustement de ces procédures internes de nomination des membres du CCNSO au Conseil a besoin d'être ajusté. Il y a également un travail qui a été fait en ce qui concerne le futur comité permanent de clients et tout ceci a été mis en place. Enfin, et en vue de la mise en place de la transition IANA, il y a eu consultation de la communauté présente à Helsinki, à Marrakech et à Helsinki, et le conseil de la CCNSO a lancé la première étape du PDP de la CCNSO, qui est donc la création d'un rapport thématique pour comprendre l'envergure et le besoin de politique CCNSO sur le retrait des CCTLD, donc un processus clé pour lequel il n'y a pas de politique en place actuellement, et le besoin d'un mécanisme de révision pour les décisions relatives à la délégation, à la révocation, au transfert et au retrait des CCTLD. Le mécanisme des révisions sur ces décisions relatives aux CCTLD est exclu des propositions redevabilité et supervision. Le rapport devrait être disponible et présenté à la communauté d'ici la réunion d'Hyderabad, donc lors de l'ICANN 57. Et maintenant, je vais vous repasser la parole, Brad, pour le prochain intervenant. Merci beaucoup, Bart. Nous allons maintenant passer au vice-président de l'engagement, Adiel. Adiel au micro. Merci beaucoup. Je vais rapidement passer en revue le point relatif à l'organisation de ressources en numéro et à l'organisation de soutien à l'adressage. Comme il a été mentionné lors de notre dernière mise à jour, l'ASO était en phase d'élection d'un représentant au conseil de l'ICANN, donc le siège numéro 10. Le processus est terminé. Et donc nous avons Akinori Mawera qui a été nommé. Donc l'ASO est en train de revoir le processus d'élection pour plus d'uniformité avec les statuts de l'ICANN. Depuis la nomination au conseil d'administration, nous avons également nommé un délégué de l'ASO, donc Armut Glasser, qui sera en tête du comité de nomination de 2017 et qui sera chargé de la sélection des 8 membres du conseil d'administration. Alors, nous avons deux rapports qui sont en phase. Nous avons donc la question des droits de la propriété intellectuelle YANA et nous avons publié deux rapports et nous sommes prêts à écouter vos commentaires. Deuxième chose très importante à mentionner, c'est donc la signature lors de la réunion à Helsinki de l'ICANN, de la convention de service entre les RIR et l'ICANN. Ce document reflète les dispositions relatives au service de numérotage de l'IANA fournies par l'ICANN et ce document n'entrera en vigueur qu'avec la transition. Vous pouvez donc consulter toutes les discussions et processus relatives à ceci sur le lien. Comme vous le savez, les RIR examinent activement les politiques relatives à la gestion des ressources en numéros, en numéro IP. Vous pouvez en savoir davantage en vous rendant sur le lien qui est fourni sur la diapositive ou alors en participant à une des prochaines réunions que vous voyez ici, les réunions des différents RIR. Vous pouvez vous rendre dans votre région. Je vais maintenant passer la parole à David, qui va vous parler du management.
Merci, Adiel. Pendant les 15 prochaines minutes, je vais faire une brève mise à jour de notre gestion au nom de l'équipe de direction de l'ICANN et aborder les sujets que vous voyez sur cette diapo. Commençons par la mise à jour du bureau de direction de la technologie. ICANN envisage de déployer ou changer les plus importantes clés cryptographiques utilisées pour aider à sécuriser les systèmes de noms de domaine via un protocole connu sous le nom d'extension de sécurité du DNS ou DNSSEC. Ces clés sont communément appelées clés de signature de clés de la zone racine. Ce sera la première fois que le KSK a été changé depuis qu'il a été généré en 2010. La modification des clés DNSSEC est une étape importante de sécurité, de la même manière que les mots de passe doivent être changés. Cela est considéré comme une pratique prudente. En juillet, nous avons publié des plans qui décrivent les étapes qui nous permettront de maintenir les meilleures pratiques de sécurité dans le maniement de la racine du DNS. Vous pouvez voir ces plans ainsi que d'autres documents connexes à www.icann.org.ksk.role. Dans le cadre de nos travaux de recherche sur la façon dont les identifiants uniques de l'Internet fonctionnent dans la pratique, nous continuons d'analyser le trafic en ce qui concerne le roulement KSK, ont un impact sur le DNS et IPv6 pour comprendre le comportement de serveurs de non récursifs et surveiller et explorer les comportements DNS et les abus. Nous continuons à découvrir des facettes intéressantes et inattendues de la façon dont la communauté Internet utilise les identifiants uniques que ICANN a coordonnés et nous allons publier des documents et des présentations détaillant nos résultats dans différents lieux. Dans le même ordre, nous avons travaillé en partenariat avec la communauté technique de l'Internet, y compris les communautés d'opération DNS, IOTF et les registres Internet régionaux sur un ensemble d'indicateurs de la santé de la technologie des identificateurs. Cet effort vise à identifier les paramètres qui peuvent être utilisés comme indicateurs pour mesurer la façon dont la santé d'Internet est en train de changer. Nous travaillons actuellement sur la définition de l'ensemble initial de paramètres pour ces indicateurs ainsi que sur un accord concernant la définition de la santé de l'Internet. Nous continuons également à maintenir la sensibilisation technique, le renforcement des capacités et des activités de formation avec les parties prenantes du monde entier. Nous surveillons les menaces qui pourraient affecter les systèmes d'identification unique de l'Internet et nous travaillons avec les communautés pour aider à diminuer ces menaces. Comme cela est maintenant mandaté par les statuts de l'ICANN, l'ICANN est à la recherche de bénévoles pour participer à la deuxième révision de la sécurité, stabilité et résilience qui fera des recommandations pour aider l'ICANN à maintenir la sécurité, la stabilité et la résilience du niveau supérieur des systèmes de l'identifiant unique de l'Internet. Si vous êtes intéressé et voulez être un membre de cette équipe, veuillez visiter le lien sur la diapo. Également lié au maintien de la sécurité, la stabilité et la résilience du système d'identificateur unique de l'Internet, on a la distribution globale des serveurs racines de l'Internet. Comme vous le savez probablement, il y a 13 serveurs racines gérés par 12 organisations qui sont engagées dans ce qu'ils font. ICANN est l'une de ces 12 organisations, exploite le serveur racine L, quelque chose que nous prenons très au sérieux. Nous travaillons avec un réseau mondial d'organisations qui se portent volontaires pour héberger le serveur racine L, appelé Instance, en partenariat avec l'ICANN, sur leur engagement pour le maintien d'un Internet sûr et stable. Au cours de l'exercice 2016, 23 nouvelles instances de racines, elles, ont été déployées dans le monde entier. Vous pouvez voir la distribution de ces instances sur cette diapo. Ces instances assurent une meilleure résilience et la réactivité aux utilisateurs d'Internet localement et dans le monde. Si vous êtes intéressé pour cette instance de racines, elles, visitez le lien qui figure sur la diapo. Voyons maintenant la mise à jour de TI d'ingénierie. Nous avons déployé un environnement de suivi de la performance appelé système de surveillance de l'accord de niveau de service comme un outil pour aider à mesurer à quel point les nouveaux registres GTLD se conforment à la spécification 10 de leur accord de registre. L'effort principal d'ingénierie a été fait dans le déploiement d'un environnement robuste d'assurance de la qualité pour tester la fonctionnalité et la performance du système. Cet environnement est essentiel pour veiller à ce que les futures versions du système soient sans bug, va évoluer de manière efficace et bien fonctionner afin de ne pas avoir un impact négatif sur les services de surveillance. Laissons l'aspect technique et passons à un axe majeur du trimestre qui a été bien sûr la préparation de la transition de la supervision des fonctions IANA. Nous avons été très concentrés sur la mise en œuvre des propositions de la communauté pour préparer la transition prévue. Goran a déjà parlé de quelques-unes des étapes les plus récentes. Ici, sur cette diapo, vous pouvez voir toutes les tâches de mise en œuvre qui ont déjà été réalisées avec une réitération des progrès importants qui ont été faits sur les tâches restantes qui seront complétées avant le 30 septembre. Je vais aborder quelques-unes des façons dont nous nous préparons pour la transition. ICANN et VeriSign ont terminé avec succès une période de test parallèle de 90 jours des changements de code de système de gestion de la zone racine et ont finalisé le contrôle de service pour la maintenance de la zone racine. Ces changements de code et cet accord permettent de suppression du rôle administratif de la NTIA associé à la gestion de la zone racine d'une manière qui maintient la sécurité et la résilience du système de nom de domaine de l'Internet. ICANN et le groupe de travail de génie Internet ont conclu l'accord complémentaire de protocole d'accord IETF 2016. Cet accord traite de la performance de la fonction IANA liée à des paramètres de protocole. L'ICANN et les registres Internet régionaux ont signé l'accord de niveau de service du registre Internet régional. Cet accord décrit les performances de la fonction IANA liées aux ressources de numérotation. Plus tôt, ce mois-ci, l'acte constitutif pour la période post-transition IANA a été déposé et reçu par le secrétaire d'État de Californie. Le nom utilisé pour la post-transition IANA est Identificateur Technique Public ou PTI. Révision de l'acte constitutif et des statuts de l'ICANN, qui sont un moyen essentiel pour mettre en œuvre la plupart des autres éléments de la transition, ont été approuvés par le Conseil de l'ICANN et entreront en vigueur lorsque le contrat de fonction IANA expire. Nous avons accompli beaucoup de choses dans notre travail de préparation de la mise en œuvre, mais un peu de travail reste à faire dans les prochaines semaines pour être prêt pour la transition. Cependant, avec les progrès réalisés au cours du trimestre passé, l'objectif final d'une communauté améliorée et habilitée indépendante de l'ICANN est bien en vue. En regardant les structures internes qui nous permettront de répondre aux besoins de la communauté, nous allons regarder de plus près la conformité et les audits de registre et de bureaux d'enregistrement qui aident à garantir que les parties contractuelles remplissent leurs obligations. L'audit de l'accord de registre lancé en janvier de cette année a terminé sa phase d'audit en juin. 10 opérateurs de registre ont été sélectionnés pour cette série de vérifications. Sur les 10 sélectionnés, Sélectionnez deux registres sans terminer la vérification sans déficience, six sans terminer la vérification avec des déficiences. Ces registres ont pu résoudre complètement ces déficiences lors de la phase de rémédiation. Deux registres ont terminé l'audit avec des déficiences qui ne sont pas résolues au cours de la phase de rémédiation. Ces registres seront retestés dans un futur série d'audits pour vérifier la conformité dans les domaines identifiés. La série d'audits de l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement de 2013 lancé en septembre de l'année dernière a terminé en mai. 67 bureaux d'enregistrement ont été sélectionnés pour cette série d'audits. 39 bureaux d'enregistrement, 60%, ont reçu un rapport de vérification sans déficience. 26 bureaux d'enregistrement, 40%, ont reçu un rapport de vérification avec des déficiences. Les bureaux d'enregistrement avec des déficiences mettent en œuvre les changements nécessaires pour être en conformité avec leurs obligations contractuelles et l'ICANN fera un suivi pour vérifier que les déficiences restantes ont été corrigées. Dans un autre effort, le système de déclaration d'exactitude WHOIS ou WHOIS ARS a été mis au point par l'ICANN pour répondre aux besoins spécifiques liés au système WHOIS identifié par les communautés. Les exigences initialement confiées par le système d'administration, le conseil d'administration d'ICANN en réponse aux recommandations de l'équipe de révision de WHOIS 2012, l'objectif de WHOIS ARS identifié est de faire un rapport sur l'exactitude des données de manière systématique pour améliorer la qualité des données de contact dans le WHOIS. Le tableau suivant résume les tickets d'inexactitude WHOIS reçus par le service de conformité pour corriger ces données. Veuillez utiliser le lien sur la diapositive pour plus d'infos. Maintenant, analysons d'autres paramètres de la conformité contractuelle. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, la performance globale de la conformité a légèrement diminué en raison de la complexité des questions en cours d'examen ainsi que du volume des activités de WHOIS ARS en mai et juin. Dans l'ensemble, les bureaux d'enregistrement et les registres sont à environ un taux de conformité de 99%, ce qui signifie qu'ils traitent la grande majorité des problèmes avant d'atteindre la phase d'exécution. Vous pouvez voir plus de détails sur le lien qui figure sur cette diapo. Passons à la mise à jour de la division mondiale des domaines pour le trimestre. À l'appui du plan stratégique quinquennal de l'ICANN, la division mondiale des domaines a publié une version bêta de l'indice de santé du marché GTLD. Cette version bêta, qui a été publiée pour commentaire public, présente les statistiques et les tendances liées au GTLD et est destinée à nous aider à suivre les progrès réalisés par rapport à l'objectif de soutenir l'évolution du marché du nom de domaine dans le secteur de la concurrence, de la stabilité du marché et de la confiance. Nous attendons la contribution de la communauté pour améliorer l'indice et nous avons l'intention de publier les statistiques en résultant de manière semestrielle. Les commentaires doivent être soumis avant le 6 septembre. Maintenant, nous allons parler des nouveaux GTLD. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2016, il y avait 96 nouveaux domaines génériques de premier niveau délégués, ce qui porte le total de la délégation à 1051. 12 accords de registre signés pour un total de 1235 accords. Et 3 ensembles conflictuels résolus, ce qui porte le total des ensembles conflictuels résolus de 217 à 233. Sur 233, ICANN n'a pas procédé à des ventes aux enchères pendant le dernier trimestre de l'exercice 2016, mais le montant net général ce jour par des ventes aux enchères de dernier recours d'ICANN est d'environ 233 millions de dollars américains. Le produit de ces enchères est réservé et mis de côté. La communauté multipartite doit élaborer une proposition sur la manière d'utiliser ces fonds. Sur une note connexe, l'ICANN et la communauté examinent la façon dont les nouveaux GTLD affectent les consommateurs, l'industrie du nom de domaine et le système de serveurs racines de l'Internet. Ces examens couvrent des sujets liés à la protection des droits, à la concurrence sur le marché, à la confiance et le choix, à la stabilité du système de serveurs racines. Au cours du dernier trimestre, Nielsen a terminé sa deuxième étude sur les attitudes des consommateurs à l'égard du système de nom de domaine, connu sous le nom de l'enquête mondiale sur la confiance des consommateurs. Les résultats des phases 1 et 2 de l'enquête, ainsi qu'un rapport sur l'abus du DNS publié par ICANN, serviront de contribution à l'équipe de révision de la concurrence, la confiance et le choix des consommateurs. ICANN facilite également une révision indépendante de la Chambre d'information sur les marques. La collecte de données, le processus d'analyse des données de cette révision est terminé et un rapport préliminaire est maintenant présenté aux commentaires publics. Passons au nom de domaine internationalisé. Les noms de domaines internationalisés ou IDN permettent aux utilisateurs à travers le monde de naviguer sur le web dans leur langue locale. Le programmateur de domaine de premier niveau d'IDN de l'ICANN facilite l'ajout de caractères internationalisés dans le système de noms de domaine. Au cours du dernier trimestre, le panel de génération Khmer a finalisé sa proposition de règles de génération d'étiquettes. À ce jour, seules les communautés de script Khmer arabes et arméniennes ont atteint cette étape. Le panel génération Le script georgien a récemment rejoint les 11 autres panels qui se sont réunis et travaillent sur ce point. Le processus accéléré de tels et du code pays permet aux pays et territoires d'exploiter des domaines de haut niveau représentant leur nom dans les langues locales. 4 CCTLD d'IDN supplémentaires pour l'Inde ont été évalués et annoncés par le processus accéléré. Pour améliorer la stabilité des opérations de registre du nouveau GTLD, l'ICANN a développé les règles de référence de génération d'étiquettes IDN pour 29 langues qui seront utilisées au deuxième niveau. Le commentaire du public pour ces règles vient de conclure ce mois-ci et nous publierons un rapport sur ces commentaires sous peu. À présent, je voudrais parler de l'acceptation universelle. L'acceptation universelle est le concept selon lequel tous les noms de domaine doivent être traités de manière égale. Cela signifie que les applications et les systèmes Internet devraient accepter, valider, stocker, traiter et afficher tous les noms de domaine, y compris les nouveaux GTLD et les domaines de premier niveau internationalisés. Au cours du quatrième trimestre, le groupe directeur sur l'acceptation universelle, ou UASG, a émis des cas d'utilisation pour les tests, ainsi que des sites web associés et des adresses e-mail. Le UASG a publié un document technique complet sur l'acceptation universelle et a publié des guides rapides pour les développeurs en 5 langues. Le site uasg.tech est devenu direct et comprend la documentation technique, des présentations et des vidéos pertinentes. Un plan de communication de base a été élaboré et est maintenant prêt pour le lancement et les membres de l'UASG ont également participé à plusieurs conférences à l'échelle mondiale. Passons au département IANA. Sur un an, selon une perspective annuelle, les demandes de noms de domaine envoyées à l'équipe IANA ont augmenté. Pendant l'exercice 15, il y a eu 1586 demandes liées au nom de domaine, alors que pour l'exercice 16, il y en a eu 1710. Nous prévoyons que ces chiffres continuent d'augmenter jusqu'à ce que la délégation des nouveaux GTLD de la série 2012 s'achève. L'équipe du département IANA traite des milliers de demandes liées à des paramètres protocoles par an et ces chiffres sont relativement stables d'année en année. La différence entre les exercices 15 et 16 est seulement de 148. Le nombre de demandes générales adressées à l'équipe IANA a légèrement augmenté au cours des deux dernières années. L'équipe a reçu 1165 demandes générales pour l'exercice 15 et 1467 demandes pour l'exercice 16, une différence de 302 demandes. Contrairement à la tendance, les demandes d'allocation des ressources de numéros des registres Internet régionaux ont diminué légèrement, passant de 6 pour l'exercice 15 à 4 pour l'exercice 16. La demande pour les allocations de numéros Internet est généralement faible, de sorte que ces chiffres sont dans la norme. Maintenant, nous allons voir comment notre équipe mondiale de soutien à la clientèle a fonctionné. Les tendances sur les exercices 15 et 16 montrent que les services de soutien de l'ICANN sont généralement en train de s'améliorer. La tendance du volume de cas et le ratio entre le nombre de cas traités et de cas résolus au quatrième trimestre nous a vu un taux de résolution de 99% des cas. Une comparaison sur l'année montre que le Centre de soutien mondial a traité environ 5000 cas de plus pendant l'exercice 16 comparé à l'exercice 15. Cette augmentation est mieux expliquée par l'introduction d'un modèle de soutien téléphonique 24 heures sur 24 et 5 jours par semaine. Bien que la charge de travail a augmenté, nous avons maintenu un taux de résolution élevé pour suivre le rythme de travail. La fréquence d'état mesure la rapidité avec laquelle ICANN répond à ses clients après avoir reçu une communication de leur part. Notre objectif est de répondre dans les 7 jours dans 80% des cas, un objectif que nous avons dépassé en fournissant des mises à jour d'état dans 89% des cas dans les 7 jours. En outre, la fréquence de mise à jour d'état a augmenté d'année en année de 72% à 90%. L'objectif de temps de résolution mesure la quantité de temps qu'il faut pour résoudre une requête et l'objectif est de 80% des cas résolus dans 7 jours. Nous avons dépassé cet objectif de niveau de service au cours du trimestre en résolvant environ 92% des cas dans les 7 jours. Nous avons également réduit d'année en année la quantité moyenne de temps qu'il faut pour régler une affaire de 18%. L'organisation est profondément engagée à participer avec les parties prenantes mondiales et à porter de nouvelles personnes dans la communauté de l'ICANN. Voyons la mise à jour de la participation. Pour l'exercice 16, il y a eu plus de 600 activités régionales de participation, ce qui signifie que nous participons avec une variété de parties prenantes dans le monde entier sur des domaines cruciaux pour le travail de l'ICANN. Le graphique sur la diapo décompose le volume par région. ICANN continue de participer aux efforts de gouvernance de l'Internet qui offrent une occasion pour la sensibilisation sur le travail de l'ICANN ainsi que la transition des fonctions IANA. Sur cette diapo, vous pouvez voir quelques exemples de ces efforts de participation du dernier trimestre. Nous sommes également profondément engagés à soutenir et à accroître la communauté de parties prenantes grâce à des programme et initiative. Le programme de bourse est une voie rapide vers l'expérience d'assister à une réunion de l'ICANN avec un programme spécifique pour améliorer la compréhension du travail de l'ICANN et la communauté. Le programme vise à accroître la participation diversifiée dans la communauté de l'ICANN. À ICANN 56 Helsinki, il y avait 31 boursiers et nous attendons d'en accueillir 55 à Hyderabad pour ICANN 57. Le programme NextGen est un autre effort pour soutenir une communauté de l'ICANN diversifiée et durable, pour engager les jeunes dans le travail de l'ICANN. Il y avait 20 participants à ICANN 56 Helsinki, dont 5 étaient des ambassadeurs de l'ICANN 55 pour aider et guider les nouveaux participants. ICANN Learn est notre plateforme en ligne où vous pouvez en apprendre davantage sur des sujets liés au travail de l'ICANN. Au cours du dernier trimestre, nous avons ajouté plusieurs nouveaux cours, y compris les vidéos du cours de l'Institut Spring Diplomatie du mois de mars, donné en partenariat avec l'école Annenberg USC pour la communication et le journalisme. Maintenant, vous pouvez accéder au cours d'une semaine complète via ICANN Learn en plusieurs langues. Visitez le lien sur la diapositive pour plus de détails. Cela met fin à la mise à jour de la gestion. Je vais maintenant céder la parole à Xavier Calves, notre directeur financier, pour la mise à jour financière. Merci David. Je suis Xavier Calves, le directeur financier de l'ICANN. Je vais vous présenter notre information financière pour l'exercice 16, allant de juillet 2015 à juin 2016. Nous allons comparer les données réelles cumulées pour cette période aux données équivalentes du budget de l'année en cours et à l'année dernière. Nous allons commencer par une vue d'ensemble de la structure financière de l'ICANN pour aider à comprendre l'information qui suit. Les informations financières contenues dans les diapositives qui suivent décrivent en bleu sur cette diapo les revenus des opérations de l'ICANN, les frais de base et les initiatives pluriannuelles. Les frais de base comprennent les fonctions IANA et les coûts, ainsi que les projets pluriannuels qui comprennent les frais de transition des fonctions IANA. En rouge, nous allons ensuite donner un aperçu du programme de nouveaux GTLD et nous conclurons avec un état des fonds sous gestion en gris. Commençons par une vue d'ensemble de nos sources de revenus pour les opérations de l'ICANN. Les résultats du financement de l'ICANN proviennent principalement de deux secteurs. D'abord, le nombre d'enregistrements annuels de noms de domaine, les frais de 18 à 25 centimes par enregistrement, et ensuite le nombre de parties sous contrat avec l'ICANN, entraînant des sommes fixes annuelles prélevées auprès des registres et des bureaux d'enregistrement. Sur la gauche, le nombre d'enregistrements de noms de domaine sont recueillis auprès de personnes inscrites par le biais de registres et de bureaux d'enregistrement et représentent plus de 70% de notre financement. Sur la droite, le nombre de parties contractantes entraîne divers frais fixes, ce qui représente 27% de notre chiffre d'affaires ou de nos recettes. Les autres produits constitués de contributions de sponsoring représentent les 2% restants des recettes de l'ICANN. Nous allons maintenant comparer ce niveau de financement pour l'exercice 16 au budget de l'année dernière. Au budget de l'année dernière. Tout au long de l'exercice 16, le financement est resté significativement au-dessus du budget de 13 millions à 126 millions, principalement en raison des facteurs suivants. Sur la gauche, les enregistrements de dons de domaine pour les registres et les bureaux d'enregistrement qui entraînent les frais de transaction montre une croissance plus élevée que prévue, en grande partie tirée par les inscriptions sur les nouveaux TLD. Les frais de registre fixes sont au-dessus des prévisions du budget, étant donné que le nombre de nouveaux TLD dans les opérations est plus élevé que prévu, en raison d'un rythme plus rapide de délégation. Ensuite, les frais fixes des bureaux d'enregistrement, au-dessus des prévisions du budget, reflètent les quelques 700 candidatures pour l'accréditation de nouveaux bureaux d'enregistrement qui a eu lieu au cours des 6 premiers mois de l'exercice 16. ICANN a élaboré un budget conservateur pour le nombre de candidatures en raison de la nature imprévisible de cet événement. Comme nous l'avions prévu au cours des deux dernières téléconférences trimestrielles des parties prenantes, le financement de l'ICANN se termine nettement au-dessus du budget en fin d'année. Nous allons maintenant examiner les dépenses pour les opérations de base de la société. Notre catégorie principale de dépenses est formée par les coûts en personnel qui représentent environ la moitié de nos dépenses totales. Cela correspond à un effectif moyen de 331 membres de personnel pour soutenir nos activités de base, à l'exclusion des effectifs soutenant des projets pluriannuels et du programme de nouveau GTLD. Les frais de déplacement et de réunion comprennent les frais de voyage, l'hébergement, la location des lieux de réunion et représentent 14% de nos coûts. La catégorie des coûts de services professionnels représente 15% des dépenses de base et comprend principalement les services contractés, les frais juridiques et les services de langue pour la transcription, la traduction et l'interprétation. Les frais d'administration comprennent principalement les loyers et les frais d'autres installations pour tous les emplacements de l'ICANN et les coûts de réseau et de télécommunication. Comparons maintenant ces dépenses au budget et à l'année dernière. Le total des dépenses estimées, combinant à la fois l'exploitation et les immobilisations, atteint 100 millions de dollars par rapport à un budget de 114 millions, ce qui entraîne un écart de 14 millions de dollars non dépensés. Les frais de personnel ont été inférieurs au budget en raison de la baisse de l'effectif attendu depuis le début de l'exercice et les coûts sociaux et bénéfices ont aussi été plus bas que prévu. Les frais de voyage ont également été inférieurs au budget prévu, reflétant à la fois moins de voyages effectués et des coûts inférieurs par voyage par rapport aux coûts prévus. Les services professionnels et les dépenses en immobilisation ont été plus faibles au cours de la première moitié de l'année, ce qui reflète, d'une part, l'accent sur le soutien aux activités de transition de la supervision des fonctions IANA, et d'autre part, les différences de calendrier entre les différents projets, par exemple les frais du programme IDN ou les révisions dans lesquelles un tiers des dépenses sont inférieures, principalement en raison du calendrier des révisions qui a été modifié. Maintenant, nous nous concentrerons sur les dépenses résultant des projets et des initiatives pluriannuelles. Les dépenses estimées pour l'initiative de transition des fonctions IANA reflètent l'activité qui a eu lieu au cours des 12 derniers mois, comme cela a été discuté plus tôt dans cette présentation. Nous allons nous concentrer sur les dépenses de ce projet sur la diapo suivante. Les frais relatifs à l'initiative de la responsabilité publique sont restés en deçà du budget tout au long de l'année, principalement en raison de projets retardés, dont certains se produiront dans les prochains mois. L'initiative de renforcement de l'infrastructure informatique a progressé avec quelques différences temporelles. Enfin, la préparation de la prochaine série de nouveaux GTLD n'a pas commencé, étant donné que les révisions sur la série actuelle sont en cours. Voyons maintenant la ventilation du coût de la transition des fonctions IANA. Ce graphique montre les dépenses pour ce projet pour les 9 premiers mois de l'année par catégorie principale des coûts. Plus de la moitié des coûts totaux se composent de l'avis juridique externe soutenant les deux pistes menées par la communauté pour la transition de la supervision des fonctions IANA et l'amélioration de la responsabilité. Les autres coûts comprennent les frais des réunions, d'autres conseils professionnels et de soutien, les coûts de services linguistiques et le coût du personnel de soutien. Les frais de conseil juridique externe étaient la plupart non prévus dans le budget, étant donné que l'étendue de l'appui juridique utilisé pour ce projet était inconnue au moment où le budget de l'exercice 16 a été élaboré. Ce soutien a donné lieu à un niveau de dépenses qui a soulevé l'inquiétude à travers l'organisation. et la communauté. Les mécanismes de contrôle de coûts supplémentaires ont été mis en place pour obtenir des conseils externes de la façon la plus rentable et renforcer la transparence et la responsabilité des dépenses de ce projet envers la communauté. Voyons maintenant les recettes et les dépenses nettes pour l'année. Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation et les dépenses, y compris les initiatives, montrent un excès de plus de 2 millions de dollars résultant des revenus de base dépassant les dépenses de 26 millions, partiellement compensées par des projets pluriannuels et des dépenses d'initiative à hauteur de 24 millions. Cela comparé à un déficit prévu de 13 millions. Nous allons maintenant examiner l'information financière relative au programme des nouveaux GTLD. Le programme des nouveaux GTLD est un programme pluriannuel de 360 millions pour créer de nouveaux domaines de premier niveau. Le programme est entièrement financé par les frais de candidature recueillis en 2012. Le programme est entré dans sa cinquième année. Après plus de trois années d'évaluation et de travail de la délégation de l'exercice 13 à l'exercice 15, plus de 200 millions ont été dépensés pour évaluer les demandes et pour rembourser les demandes rejetées. Environ 70 millions d'autres frais d'évaluation et de remboursement devraient être traités dans l'exercice 16 et à travers le reste du programme, laissant un montant estimé de 89 millions de fonds restants pour couvrir les dépenses imprévues futures, y compris l'atténuation des risques. Nous allons maintenant nous concentrer sur les résultats du programme pour les 9 premiers mois de l'exercice 16. Au total et par catégorie, les frais sont plus faibles que prévus, ce qui est principalement dû aux activités contractuelles se produisant à des coûts moindres que prévus. Voyons maintenant l'état des fonds dans le cadre de notre gestion. Les nouveaux fonds liés au programme GTLD, sur la gauche, comprennent notamment les fonds de nouveaux GTLD, représentant la partie des frais de demande qui n'a pas encore été dépensée et le produit des ventes aux enchères. Les fonds des nouveaux GTLD ont diminué en raison des frais d'évaluation engagés et des remboursements de demandes refusées. Les recettes des enchères ont augmenté à la suite des ventes aux enchères qui ont eu lieu tout au long de l'exercice. Les fonds des opérations Lycan sous gestion sur la droite reflètent une diminution principalement due au remboursement tardif des dépenses au nom du programme de nouveau GTLD. Voyons maintenant notre exercice 2017 qui a commencé le 1er juillet. Le budget de l'exercice 2017 a été approuvé par le Conseil à la fin du mois de juin 2016 à la suite d'un processus étendu de participation de la communauté. Le budget reflète une position équilibrée avec une augmentation d'année en année de financement et de dépenses. Selon une approche conservatrice, au cours de l'exercice 2017, ICANN financera les projets pluriannuels à l'aide de son financement annuel plutôt que de ses réserves, comme ce fut le cas au cours des dernières années, et continuera à gérer ses dépenses en deçà du budget. Cela conclut la présentation financière et je vais maintenant de nouveau donner la parole à Brad qui animera la session de questions et de réponses.
Merci Xavier. Donc première question qui nous vient de Thomas McBride et elle s'adresse à Monsieur Crocker, au Dr Crocker. Merci donc Monsieur Crocker d'avoir mentionné la transcription des séances délibératives du Conseil. Ce qui me préoccupe, c'est le rythme auquel ceci se produit. La résolution a été approuvée en mai et on devait en fait évaluer le plan Helsinki. C'était donc il y a 2 mois. Est-ce que le Conseil a reçu un plan? Est-ce qu'il l'a passé en revue? Pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs mois pour transcrire les réunions du Conseil? Les groupes de travail de PDP et certaines parties de la communauté accomplissent ceci en un jour ou deux. Enfin, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ceci ne pourrait pas être appliqué de manière rétroactive, à commencer par la réunion de Helsinki? Steve Crocker au micro. Merci Brad et merci Thomas McGrath pour cette question. Alors, en fait, je comprends que votre question est assez importante. Le Conseil a reçu un plan pendant la réunion de Helsinki. Le projet pilote a inclus les séances délibératives de la réunion d'Helsinki et il y a un sous-groupe du Conseil qui s'occupe de la révision de ce processus. Il y a un certain nombre de complexités qui existent et j'espère que vous appréciez le fait que le personnel est surchargé de travail. Alors, quand je parle des sessions délibératives, nous divisons le travail que nous faisons au Conseil entre les séances officielles du Conseil et ce que j'essaye de faire pour ces réunions officielles, c'est de les mener de manière très efficace, de manière à ce que toutes les questions à discuter sont identifiées à l'avance, de manière à avancer rapidement. Alors, si ces réunions officielles pouvaient être ouvertes, par exemple pendant les réunions de l'ICANN, eh bien, elles ne seront pas aussi informatives qu'on pourrait le penser. Alors, pour ce qui est des séances délibératives ou séances informatives, il y a des discussions plus larges. Donc, cette manière dont les choses sont organisées n'est pas forcément adéquate pour que tout soit ouvert. Il y a un certain nombre de choses dont on parle de temps à autre, mais je crois que l'idée, c'est que nous sommes très engagés par rapport à ceci. Nous sommes prêts à fournir autant d'informations que possible. Je comprends votre préoccupation. Et ce que j'aurais à dire de votre question, c'est que nous devons être plus efficaces en matière d'attente et en matière de processus et de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je repasse la parole à Brad. Merci Steve, Brad au micro. Il y a une autre question de M. McBride. Le 9 août, le conseil d'administration de la CAN a voté pour accorder à l'ancien ombudsman une prime de performance, en dépit du fait que 75% du conseil a voté pour que son contrat ne soit pas renouvelé une fois son expiration fin juin. Donc, comment pouvez-vous expliquer que le conseil soit arrivé à une décision aussi conflictuelle, donc de ne pas renouveler un contrat, mais d'accorder quand même une prime sur performance? Steve Crocker au micro. Merci, Brad. Je crois que cela représente mal les choses de dire que nous avons voté pour qu'il ne soit pas renouvelé, qu'il ne revienne pas à son poste. Je crois que d'une manière générale, dans le cadre de la transition et dans le cadre de l'amélioration de la redevabilité, nous voyons à l'avenir des changements se présager, surtout en matière du rôle de ce médiateur, de cet ombudsman. Et donc nous avons fait un certain nombre d'évaluations, mais la réponse rapide à donner à ceci, c'est que nous apprécions le travail de Chris et de fait, non seulement nous l'avons payé pour le travail qu'il a fait, et donc le paiement que vous mentionnez, ça fait partie de ça, mais nous l'avons demandé de rester comme consultant pendant un certain temps, et il est d'accord. Et donc il y aura une phase intérimaire pendant laquelle notre médiateur, donc Wayne, notre médiateur en fait de secours pour ainsi dire, pourra voir quelles sont les exigences nécessaires pour améliorer ou élargir le rôle de ce médiateur à l'avenir. Merci Steve, Brad au micro. Merci beaucoup. Nous avons une question de Monica Ernert, qui est journaliste en Allemagne, qui est pour Jamie. En ce qui concerne la transition, Yana, comment les chiffres ont-ils été calculés en termes de mise en place des tâches de mise en place plutôt. En ce qui concerne l'accord RVM, il y a eu beaucoup de commentaires dans la période de commentaires publics qui sont critiques sur le lien entre les contrats COM et la tâche RVM. Est-ce qu'on pourrait peut-être établir des changements là-dessus? Et enfin, pensez-vous qu'il puisse y avoir des obstacles significatifs qui puissent interrompre la transition? Est-ce que le Congrès américain pourrait en fait mettre le pied sur le frein? Jamie au micro. Merci Monica pour cette question. En ce qui concerne la première question par rapport au pourcentage des tâches, nous avons fait une gestion des projets, des différentes tâches depuis le début en essayant de prendre en considération les tâches en elles-mêmes, les délais disponibles pour les mettre en œuvre. Et le pourcentage que vous voyez ici est basé sur notre estimation des délais que prendront ces tâches critiques et des délais qu'il nous reste, ou du temps qu'il nous reste, jusqu'au 30 septembre. Donc j'espère que ceci répond à votre question. Maintenant, pour ce qui est du lien du contrat.com et du RZM, nous avons essayé d'expliquer que ce qui nous intéresse tous, c'est de conserver la stabilité, la sécurité de la zone racine et que tous nous bénéficions de la plateforme utilisée jusqu'à maintenant et qui soutient non seulement la plateforme de la zone racine, mais également le .com. Et donc, nous profitons de ces synergies. Et enfin, oui, c'est vrai, il y a eu période de commentaires publics et tous les points de vue seront pris en considération. Bras de micro. Merci beaucoup, Jamie. Nous n'avons plus de questions dans la file et il n'y a pas non plus de questions par téléphone, donc nous allons terminer cet appel. J'aimerais rappeler à vous tous que si vous avez des questions, surtout pour ceux d'entre vous qui observez cette émission par la suite, n'hésitez pas à les envoyer à engagement@icann.org. Donc encore une fois, engagement en anglais, @icann.org. Nous allons maintenant conclure l'appel. Merci à tous.